Bienvenue au podcast d'El Shaddai. Vous allez écouter une parole qui va vous édifier et qui vous permettra d'avancer afin d'être bien établi dans votre vie chrétienne. Excellente écoute.
L'adoration des leaders. L'adoration des leaders, c'est une adoration qui est capable de toucher le cœur de Dieu, qui est capable de monter vers le Père comme un parfum de bonne odeur, mais qui a la capacité d'influencer aussi l'environnement dans lequel on se trouve. Parce qu'un leader influence. Un leader ne se laisse pas influencer par tout et n'importe quoi. Alléluia. Comme j'ai dit ce matin au culte, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des bibliolâtres, des chrétiens qui adorent la Bible. Ils prennent la Bible comme un fétiche. C'est-à-dire que même quand ils dorment, ils mettent la Bible sous l'oreiller pour ne pas faire de cauchemar. Alors qu'ils n'ouvrent jamais cette Bible-là. Jamais ils ne l'ouvrent. Il y a des chrétiens qui roulent avec la Bible dans la boîte à gants de la voiture pour ne pas faire d'accident. Alors qu'ils n'ont jamais ouvert même cette Bible. Ils ne connaissent même pas un seul verset. Bien-aimé, la Bible n'est pas un fétiche. La Bible contient à l'intérieur les clés pour que nous ayons la protection. Donc il faut la méditer pour pouvoir l'utiliser. C'est le contenu qui compte. Sinon, ce n'est que du papier et de l'encre. Mais son contenu, c'est le contenu qui change les vies. De la même façon, il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent les chants d'adoration, l'adoration, comme si c'était des fétiches. C'est-à-dire que tu te lèves la nuit, tu as fait des cauchemars, tu ne sais pas trop quoi faire, tu sors ton téléphone, tu mets les chants d'adoration en pensant que les mauvais esprits vont partir juste parce que tu as mis les chants d'adoration alors que toi-même tu n'adores jamais le Seigneur. Alors que toi-même tu ne passes pas du temps dans la méditation de la parole. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ce qui fait le chant d'adoration, c'est la personne qui interprète le chant. C'est le cœur, la disposition de la personne qui interprète le chant, qui apporte l'onction. Sinon, dans un chant à lui-même, il n'y a pas d'onction dedans. Parce que même un païen peut chanter le chant qu'on chante ici. Rien ne se passera. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas disposé. Mais lorsque quelqu'un qui a un cœur disposé prend ce chant, quelque chose se passe. Pourquoi? Parce que l'onction vient du cœur de la personne qui interprète ce chant. Et lorsque tu adores avec un certain cœur, Dieu agrée cette adoration. Mais cette adoration a également le pouvoir d'influencer l'environnement dans lequel tu te trouves. Et c'est ça que nous allons traiter aujourd'hui. Quand on parle de l'adoration des leaders, qui sont les leaders? Les leaders, c'est chacun d'entre nous. Parce que il y a beaucoup de parents ici, il y a des pères, des mères. Vous êtes des leaders pour votre famille. Alléluia. Les chantres de l'église, ceux qui se tiennent ici pour chanter, ce sont des leaders dans l'adoration. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des leaders partout où nous allons. Nous ne sommes pas appelés à être que des suiveurs. Il faut que nous influencions l'endroit où nous nous trouvons. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc nous devons avoir de l'influence dans l'environnement où nous sommes. C'est là où je veux en venir aujourd'hui, à midi. Alléluia. Il y a trois niveaux dans l'adoration. Le premier niveau, c'est adorer le Seigneur dans le culte comme le faisons ici. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Dieu agrée cela. Le deuxième niveau, c'est quand l'adoration est un style de vie, quand c'est notre mode de vie et que nous le vivons. Et le troisième niveau, c'est quand nous-mêmes, notre personne, nous devenons des parfums de bonne odeur. Donc c'est-à-dire que quand nous rentrons quelque part, le parfum de Jésus-Christ se fait sentir à des distances. Et c'est seulement si notre vie, nous-mêmes, nous devenons un parfum de bonne odeur. C'est la seule condition pour que nous puissions influencer l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et c'est le niveau que nous devons atteindre. Alléluia. Pour comprendre un peu l'adoration, je vais comparer l'adoration à l'amour. Parce que l'adoration, c'est l'étape supérieure à l'amour. D'ailleurs, dans la langue française, on dit d'une personne qu'il adore manger. Il adore les voitures. C'est un sentiment supérieur à l'amour. Parce que le Seigneur nous a créés à son image. et nos émotions sont à la ressemblance de Dieu. Donc, en étudiant un peu notre comportement, nous pouvons mieux comprendre aussi le Seigneur. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si d'abord tu ne l'aimes pas. L'adoration commence par l'amour d'abord. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que tu aimes réellement Dieu avant même de penser à l'adoration? Pose-toi cette question dans ton cœur. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Alors, si tu réponds oui, dis-moi pourquoi tu adores le Seigneur une seule fois par semaine ici à l'église. Dis-moi pourquoi tu ne vis pas une vie d'adoration. Pose-toi cette question. Comme j'ai dit, pensons au couple, à l'amour. Si aujourd'hui je suis avec ma femme, que je dis que je l'aime, mais que je ne lui donne jamais de preuve de cet amour, et que je donne cet amour une fois par semaine, les preuves d'amour une fois par semaine, une fois par mois, la femme là, hein, même si elle est petite, frêle, elle va me rappeler à l'ordre. Ah oui, essayez avec votre femme, elle va vous rappeler à l'ordre pour vous dire non, tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi nous faisons cette chose avec Dieu? L'amour se prouve tous les jours. C'est quelque chose qu'on entretient au quotidien. De la même façon que tu ne peux pas prétendre aimer ton mari ou ta femme si tu ne lui donnes pas les preuves d'amour chaque jour, tu ne peux pas prétendre que tu adores Dieu si tu ne le fais pas chaque jour. Je vous assure, bien-aimés, il y a des gens qui adorent le Seigneur que ici, à l'église, et qui lisent la parole que sur la projection. Bien-aimés, c'est la première chose que nous devons changer. Avoir premièrement de l'amour pour Christ, avoir de l'amour pour Dieu. Pour espérer être un adorateur, il faut d'abord aimer. Alléluia. Pour comprendre le thème d'aujourd'hui, il faut que je revienne un peu sur quelques définitions parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Alléluia. L'adoration, la définition de l'adoration, ça vient du latin adorare. Qui, même adorare vient de orare, ça veut dire donner un plaidoyer, parler. Adorare veut dire adorer Dieu. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Alléluia. Et la définition selon la Bible. Dans la Bible, il y avait deux façons de montrer l'adoration, deux façons physiques de montrer l'adoration à Dieu. La première, c'était le fait de se prosterner. En hébreu, c'est ishtahawa ou hawa. C'est prononcé plus de 170 fois dans la Bible. Se prosterner devant Dieu. Et dans l'ancienne alliance, comme j'ai dit ce matin, les gens ne blaguaient pas avec ça. Il était inconcevable pour eux de se prosterner devant quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu. Parce que c'était sacré pour eux, adorer Dieu. Nous avons vu l'exemple de Daniel et de ses compagnons qui ont refusé de se prosterner devant la statue qu'a érigée Nabuchodonosor. Parce qu'ils avaient du respect pour Dieu. Ils ne voulaient pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu au péril de leur vie. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi? Parce que le fait de se prosterner représentait l'adoration pour eux. Alléluia. Faisons très attention, mes bien-aimés. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, la définition c'est proskoun. Et c'est la même définition que dans l'Ancien Testament. C'est le fait de se prosterner. Mais cette fois-ci, ce n'est plus se prosterner devant un homme ou un autel, mais c'est le geste pendant le culte. Alléluia. Et l'adoration, j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous qu'il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration et personne d'autre. Pierre a repris Corneille qui voulait s'agenouiller devant lui, se prosterner devant lui. Parce que Pierre a dit que l'adoration, il n'y a que Dieu qui mérite qu'on se prosterne devant lui, pas lui. Et même l'ange a parlé à Jean en lui disant « Ne te prosterne pas devant moi » parce que Jean a été impressionné par la puissance de l'ange et s'est prosterné pour l'adorer. Mais l'ange a repris Jean en lui disant « Ne m'adore pas, adore le Seigneur, que lui, ne te prosterne plus devant moi. » Donc j'aimerais rappeler encore aux personnes qui sont ici à midi, ne soyez pas impressionnés par la puissance. Parce que beaucoup de chrétiens sont impressionnés par la puissance des hommes de Dieu. Dieu donne effectivement la puissance aux hommes de Dieu. Et parfois, tu peux te retrouver devant un homme de Dieu qui va opérer un miracle sous tes yeux. Des paralytiques vont se lever et marcher. Mais ne te laisse pas impressionner au point de t'agenouiller devant ces hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Quand bien même un homme de Dieu viendrait ouvrir le ciel devant toi, ne te prosterne pas pour l'adorer. Jamais de la vie, ne te prosterne pas pour l'adorer. Parce que Dieu a été clair là-dessus. Il veut l'adoration pour lui seul. Alléluia. Nous avons parlé aussi de l'idolâtrie. Parce qu'avant de comprendre l'adoration, nous devons comprendre ce que l'adoration n'est pas. L'idolâtrie, c'est quelque chose que nous devons éviter. Parce que dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël était un peuple qui avait un penchant pour l'idolâtrie. Le peuple d'Israël se tournait toujours vers les faux dieux, malgré tous les signes que le Seigneur leur donnait. Malgré les sanctions que le Seigneur leur faisait, ils allaient toujours vers l'idolâtrie. Et ce fut le défi numéro un des prophètes et des hommes de Dieu dans l'ancienne alliance. Même quand Jésus a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte avec des faux dieux. Ils ont refusé de laisser leur passé derrière eux. Ils sont sortis avec la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ronfa. Ils sont sortis avec cela. Comme je disais encore, je peux comprendre que tu sortes de l'Égypte avec tes faux dieux. Mais quand même, quand tu as vu la main de Dieu qui a ouvert la mer rouge, quand tu as vu la main de Dieu qui t'a permis d'échapper à la mort, comment peux-tu encore garder ces faux dieux sur toi? Parfois, bien aimé, le Seigneur opère des signes et des prodiges dans notre vie. Nous vivons des miracles, mais nous continuons à garder ces choses du passé. Quand tu discutes avec les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui gardent les façons de faire ancestrales de leur pays. Ils viennent à l'église et quand ça ne va pas, ils vont voir les féticheurs, ils vont voir les guérisseurs pour aider Dieu au cas où. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Alléluia. Donc, quand ta prière prend du temps à arriver, patiente. N'écoute pas les gens qui te disent, non, tu es malade depuis trop longtemps. Viens en Afrique, on va te trouver quelqu'un pour qu'il fasse des rites sur toi, pour que tu aies la guérison. Bien-aimé, ne te laisse pas impressionner par ça. Parce que si tu fais cela, tu fais de l'idolâtrie. Et le Seigneur n'agrée pas cela. Alléluia. Donc, bien-aimé, faisons attention. L'adoration, c'est que pour Dieu, lui seul. Si aujourd'hui, tu adores le Seigneur dans l'église et que tu sors pour adorer quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas exprimer l'adoration des leaders. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec lui. J'ai aussi dit, attention, il y a une autre personne qui demande l'adoration. Dieu demande l'adoration, certes, mais une autre personne demande cette adoration, c'est le diable. Le diable lui-même souhaite que tu l'adores. Mais faisons attention à ne pas tomber dans son piège. Parce que le Seigneur veut l'adoration à lui seul. Quand le diable a tenté Jésus, il a promis de donner à Jésus des richesses, la notoriété, la gloire, en échange de l'adoration. Bien-aimé, pour reconnaître la voix du diable, le diable te promet toujours quelque chose pour te demander de l'adorer. Alors que Dieu, lui, souhaite que tu l'adores même s'il ne te donne rien. Dieu souhaite que tu l'adores dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans la maladie, comme dans la santé. Dieu souhaite que tu l'adores en toutes circonstances. Donc c'est ainsi que tu pourras reconnaître aisément la voix de Dieu. Alléluia. Donc à chaque fois que tu entends une voix ou une personne qui te demande de l'adorer en contrepartie de cadeaux ou de la notoriété et de bien, sache que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, faisons très très attention parce que nous ne pourrons pas vivre une vie d'adoration, une adoration sincère si nous-mêmes nous continuons à servir d'autres dieux. Et si nous n'adorons pas Dieu lui seul. Pour ceux qui sont arrivés aussi, j'ai dit que l'adoration se fait dans notre cœur. C'est de ton cœur que parle l'adoration. Dans l'ancienne alliance, il fallait brûler un animal sur l'autel pour que l'adoration monte vers le Père. Et c'est ainsi que Dieu recevait l'adoration. C'était la seule façon. Mais par le sacrifice de Jésus, tu n'as plus besoin de faire brûler un animal. Parce que cette adoration vient de ton cœur. Donc ton cœur, c'est l'autel sur lequel part l'adoration aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ton cœur, c'est l'autel sur lequel part ton adoration? Dis-lui cela. Donc, tu dois garder cet endroit saint. Parce que le Seigneur était exigeant sur la sainteté de l'autel. Tu ne pouvais pas apporter un sacrifice sur un autel souillé, un autel sale. Donc, bien-aimé, tu dois veiller sur l'état de ton cœur si tu souhaites adorer le Seigneur et qu'il agrée cette adoration. Si ton cœur est souillé, je le dis aujourd'hui, je le répète, si ton cœur est rempli de péché, l'adoration qui va monter vers le Père sera un parfum de mauvaise odeur. Il faut qu'on répète ça jusqu'à ce qu'on le comprenne. Nous devons travailler sur l'état de notre cœur. Et comme j'ai dit vendredi, c'est de notre responsabilité. Personne ne va traiter l'état de ton cœur pour toi. Les plus jeunes, les adolescents, la Bible dit, ne réveille pas l'amour avant le temps. Tu t'en vas, tu réveilles l'amour, tu exposes ton cœur. C'est comme ça qu'il y a des jeunes qui se suicident parce que son petit copain l'a quitté. Mais quelle tristesse! Tu as 16 ans, tu te suicides parce qu'un garçon de 16 ans t'a quitté. Tu as tout l'avenir devant toi. Et parfois même quand tu regardes ce garçon de 16 ans, il n'a rien. Même pas d'avenir. Et tu te suicides pour une personne comme ça qui te chamboule l'esprit. Mais c'est de ta responsabilité de protéger ton cœur. Comme j'ai dit, il y a des moments où on a des frictions dans la vie. Tu arrives à l'église avec le cœur meurtri. Tu arrives avec le cœur en colère. Faites l'exercice. Vous allez voir que quand ton cœur est en colère, tu ne peux pas adorer le Seigneur convenablement. Tu n'arrives pas. Donc c'est de ta responsabilité de veiller sur ton cœur. Veille sur l'autel qui est ton cœur. Ainsi, le Seigneur nous pourra nous trouver parmi les adorateurs qu'il cherche. Alléluia. J'aimerais rappeler un autre point rapidement et on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Nous allons parler de adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus dit à la Samaritaine dans Jean 4, 20, verset 23 à 24, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » La première notion que j'ai donnée, c'est la notion du Père. Si nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité, nous devons passer par le Père. Or, nous ne pouvons pas passer par le Père si nous ne passons pas par Jésus-Christ qui est le Fils. Si nous n'avons pas de respect pour Christ, nous ne pourrons pas atteindre le Père pour l'adorer en esprit et en vérité. Dans l'ancienne alliance, Dieu se présentait comme l'Éternel des armées. Mais dans la nouvelle alliance, il se présente comme un Père. Donc j'aimerais que tu réalises aujourd'hui que le Seigneur est ton Père. Réalise-le. Tu as été adopté, tu as changé d'identité. Et tu es devenu co-héritier avec Christ. Alors bien aimé, nous devons avoir du respect pour Christ. Alléluia. Christ est la provision de notre adoration. C'est lui qui est la provision de notre adoration. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas adorer sans Christ. Christ doit être au centre de notre adoration. La première fois que le mot adorer a été prononcé tel quel, c'était dans Genèse 22. Lorsqu'Abraham était en train de monter sur la montagne avec son fils Isaac, il a dit à ses serviteurs, restez là, nous allons monter pour adorer. Et quand il est monté, son fils lui fait la réflexion, mais papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Le fait que le fils lui pose cette question nous montre que le fils connaissait comment on devait adorer Dieu. Il manquait quelque chose. Là où les serviteurs d'Abraham n'ont pas vu qu'il manquait quelque chose, le fils a discerné qu'il manquait quelque chose. Mais néanmoins, Isaac a accepté d'aller se mettre sur l'autel. Et alors que Abraham s'apprêtait à tuer son fils pour le sacrifier, Dieu dit, Abraham, arrête. Arrête. Le Seigneur ouvrit les yeux d'Abraham. Abraham regardait un peu plus loin. Il vit un bélier qui avait les cornes attachées à un arbre. Ce bélier a été la provision pour l'adoration, pour le sacrifice ce jour-là. Comme j'ai dit ce matin, le Seigneur a fait venir ce bélier de l'éternité et l'a mis dans notre temps. Le Seigneur a fait venir ce bélier du néant et l'a fait venir pour qu'il soit la provision de l'adoration d'Abraham ce jour-là. Et par le sacrifice de ce bélier, Isaac a été épargné. Et des milliers d'années plus tard, c'était aussi sur une montagne, mais ce n'était plus le mont Morija, mais ça s'est passé sur le mont Golgotha. Et cette fois-ci, l'agneau était présent. Jésus-Christ était présent. Et c'est pour ça que j'ai dit vendredi que Jésus est la provision de notre adoration. À ce même titre, Dieu a fait apparaître Jésus de l'éternité pour qu'il vienne sur la terre, pour qu'il meure à notre place et pour apporter l'adoration à un niveau plus glorieux, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que Jésus est la provision de notre adoration pour toujours. Nous n'avons plus besoin d'apporter d'animaux pour les sacrifier. Jésus-Christ est la provision de notre adoration pour toujours. Alléluia. Quand nous comprenons cette dimension, bien-aimés, nous n'allons plus blaguer avec Jésus-Christ, comme j'ai dit ce matin. Nous n'allons plus blaguer avec lui. Parce que sans Christ, nous ne pouvons pas atteindre le Père. Il est le seul chemin qui mène au Père. Nul ne peut aller au Père que par lui. Nous sommes obligés de composer et de marcher avec Christ si nous voulons avoir accès au Père. Ce n'est pas une option. Donc si tu désires te trouver parmi les vrais adorateurs, tu dois passer par Jésus et tu dois mettre Jésus au centre de ta vie. Alléluia. Donc pour adorer comme un leader, tu dois premièrement avoir un cœur d'adorateur. J'ai fait le résumé tout de suite. Deuxièmement, tu dois faire partie des adorateurs que le Père recherche. Et c'est ainsi, quand tu réunis ces deux caractéristiques-là, tu peux accéder à l'adoration des leaders. Alléluia. Ceux qui adorent le Père et leur adoration influence l'endroit où ils se trouvaient. Alléluia. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Actes, verset 25 jusqu'au verset 31. Nous pouvons lire. Je ne sais pas si la régie est prête. C'est le passage de Paul et Silas dans la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et voulait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Bien-aimés, c'est une situation où Paul et Silas se trouvaient dans une situation délicate. Ils ont été mis en prison alors qu'ils n'avaient rien fait. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de vouloir servir Christ. Alors dans cette prison où ils se trouvent, dans la tourmente où ils se trouvent, au lieu de se lamenter, au lieu d'injurier Dieu, ils ont commencé à louer et à adorer Dieu dans la prison. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Bien-aimés, est-ce que nous sommes capables nous aussi, si nous sommes accusés à tort, si nous vivons des moments de prison, des moments où nous ne sommes pas libres, alors même que nous n'avons rien fait, est-ce que nous sommes capables de faire comme Paul et Silas? Au lieu de se plaindre comme nous le faisons chaque jour, de s'asseoir et de chanter des louanges et de l'adoration à Dieu? Est-ce que nous sommes capables de faire cela? Bien-aimés, ces chants qu'ont chanté Paul et Silas ce jour-là ont fait descendre la présence de Dieu dans le lieu où ils se trouvaient. Ça veut dire que ce chant qu'ils ont chanté a été agréé par le Père lui-même. Et la présence de Dieu est descendue, et la présence de Dieu était telle que même les fondements de la prison ont commencé à bouger. Et les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Vous voyez le pouvoir de l'adoration et de la louange. Donc, bien aimé, lorsque nous adorons comme des leaders, ça influence l'environnement où nous nous trouvons. Lorsque tu adores Dieu, non seulement tu bénéficies de cela, mais ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Lorsque nous adorons Dieu, les chaînes tombent. Lorsque nous adorons Dieu, les chaînes de la maladie tombent. Lorsque nous adorons Dieu, il y a des délivrances qui s'opèrent. Parce que lorsque nous adorons Dieu avec un cœur que Dieu veut, l'onction descend. L'onction descend. Donc, bien aimé, pour adorer le Seigneur comme un leader, nous devons être capables de l'adorer malgré l'épreuve. Dès que nous avons une petite situation, au lieu de nous affermir dans la foi, nous abandonnons. C'est comme si tu es malade et tu fuis les médecins. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Au contraire, si tu traverses des moments d'épreuve, tu dois t'approcher de Christ. Tu dois t'approcher davantage. Et l'adoration est une clé à ta délivrance. Alléluia. L'adoration a provoqué l'intervention de Dieu. Oh. Bien-aimé, lorsque David a joué de sa harpe, j'ai donné cet exemple. Son cœur était tellement disposé que la présence du Seigneur est descendue. Et la présence du Seigneur a fait partir le mauvais esprit qui tourmentait Saül. Lorsque nous adorons, nous influençons notre entourage, nous influençons notre environnement. Alors bien-aimés, sachons que l'adoration est une puissance incroyable. L'adoration a une puissance incroyable et nous devons adorer comme des leaders. Arrêtez de nous laisser influencer, mais que nous soyons ceux qui influencent le lieu où nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, j'ai donné cet exemple. Tu te trouves en dîner de famille. Tu as tes cousins, tes frères qui blasphèment contre le nom de l'Éternel, ton Dieu. Et tu es là, tu absorbes comme si tu étais une victime de ces paroles. Bien-aimé, quand tu ne dis rien, que tu laisses les gens blasphémer contre Dieu, tu participes à cela. Donc faisons attention. Nous ne devons pas permettre que les gens blasphèment le nom de l'Éternel devant nous. Parce que nous sommes appelés à être des leaders. C'est nous qui devons apporter plutôt l'adoration. Et nous devons arrêter net ceux qui blasphèment contre le Seigneur en notre présence. Pourquoi? Parce que nous devons adorer comme des leaders. Non pas comme ceux qui subissent, mais ceux qui imposent le règne de l'Éternel. Alléluia. Il y a le passage de David contre Goliath. Je l'aborderai sous un angle différent que ce matin. Ce matin, j'ai abordé cette histoire dans la dimension de l'esprit. C'est vrai. Quand David s'est trouvé face à Goliath, et que Goliath se trouvait face au peuple d'Israël, et que pendant 40 jours, il n'arrêtait pas d'injurier le nom de l'Éternel. Il blasphémait contre le nom de l'Éternel devant le peuple d'Israël, et personne n'a osé se lever pour lui dire d'arrêter. David, quand il s'est retrouvé dans le champ de bataille, n'a pas supporté cela. Il a décidé d'aller combattre Goliath pour rétablir l'ordre, parce que c'était inconcevable pour lui de laisser un incirconcis parler de la sorte à l'Éternel. Et lorsque David s'est présenté, un peu avant cela, la parole de Dieu dit que le peuple d'Israël était terrifié. Tous les soldats étaient terrifiés. Tous. Les grands généraux étaient terrifiés. Bien-aimés, parfois, quand les chantres chantent, quand nous chantons ici, parfois le peuple est terrifié. Parfois nous sommes touchés dans notre cœur. Parfois nous sommes abattus. Le peuple d'Israël était abattu parce que la montagne qui se trouvait devant eux, Goliath, était trop haute. Ils n'avaient plus d'issue. Mais lorsque David a adoré le Seigneur en face de Goliath et que le Seigneur lui a donné la victoire, ça a eu une influence même sur le moral du peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël a retrouvé en confiance. Et juste après cet exploit, le peuple d'Israël s'est rappelé, mais en fait, on est fort. Et ils ont commencé à suivre les Philistins. Pourquoi? Parce que l'acte de David a eu de l'influence même sur le moral du peuple d'Israël. Donc bien aimé, lorsque nous adorons le Seigneur, ça change aussi notre morale. Lorsque nous adorons le Seigneur, ça change le moral de notre entourage. Quand les personnes qui t'entourent sont abattues, lorsque tu adores le Seigneur avec l'adoration des leaders, tu influences même le moral de ceux qui sont autour de toi. Vous savez, il y a des personnes, quand tu marches avec eux, tu es tout le temps joyeux. Il faut que nous fassions partie de ces gens-là. David a été plus un leader que Saül, qui lui-même était le roi. David n'était pas le roi. David était frêle. Mais ce jour-là, il a été un leader pour tout le peuple d'Israël. Ils sont passés de effrayés à victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il a osé adorer Dieu devant Goliath. Il a dit, oui, c'est vrai que tu es grand, hein, physiquement, mais spirituellement, tu es petit. Spirituellement, tu es petit. Le Seigneur me donnera la victoire. Et cette adoration qu'il a prononcée ce jour-là, bien-aimé, pour moi, ça fait partie d'une des plus belles et plus courageuses adorations que David a données dans sa vie. Être capable d'adorer Dieu dans l'épreuve. Bien-aimé, lorsque tu es capable d'adorer Dieu dans l'épreuve, cela donne de l'espoir aux autres. Alléluia. Lorsque tu vis une situation de deuil et que tout le monde te voit en train d'adorer, tout le monde te voit en train de continuer à être à l'église, en train de le servir, en gardant le sourire, ça donne de l'espoir aux autres. Quand bien même les personnes même vont te demander, est-ce que tu aimais réellement la personne qui est décédée? Est-ce que tu l'aimais réellement? Parce que le Seigneur veut que nous l'adorions en tout temps, en toutes circonstances. Et lorsque tu fais cela, bien aimé, ça influence, et ça influence fort ton entourage. Donc bien aimé, quand tu traverses l'épreuve, sers le Seigneur. Alléluia. Sers le Seigneur. Je souhaite que réellement nous soyons et que nous fassions partie de ces adorateurs qui sont capables d'adorer malgré l'épreuve. Qui sont capables d'adorer malgré l'épreuve, parce que cela a une bonne influence sur notre entourage. L'adoration des leaders. Aujourd'hui, maintenant, j'aimerais parler aux responsables de famille, les pères, les mères. Vous êtes des leaders dans vos familles. Quand vous passez les temps d'adoration dans votre famille, ça passe par vous. Ça passe par vous. Quand l'épreuve arrive dans la famille et que tu es le chef de famille, tu ne dois pas te morfondre. C'est toi qui dois montrer l'exemple en continuant à adorer Dieu malgré l'épreuve. Bien-aimé, je vous assure, c'est très difficile. Il y a quelques mois, en rentrant à la maison, notre petit Danny s'est retrouvé inanimé comme ça, sans raison. On pensait vraiment qu'il était en train de partir. On pensait qu'il était en train de partir. Donc, entre le temps où tu réalises cela, le temps que l'ambulance arrive, tu es tellement perdu. Tu es tellement perturbé. Et le jour suivant, je me suis dit, mais comment je n'ai pas eu le réflexe de crier à l'Éternel tout de suite? Bien aimé, je vous assure, ce n'est pas facile. Tu vois l'enfant inanimé devant toi. Tu es attiré par tout ce que tu vois. Tu ne vois même pas dans le domaine spirituel. Ce que David a fait, c'est quelque chose de très difficile. Et ma prière ce jour-là, c'était que Seigneur, donne-moi la force et donne-moi la capacité que la prochaine fois, si ça arrive, la première chose que je dois faire, c'est crier à toi d'abord. Avant de me jeter sur l'enfant, avant d'essayer de faire les choses. Non. Bien aimé, c'est facile quand on parle comme ça. Mais pour le mettre en pratique, c'est autre chose. C'est autre chose. La théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Ça doit se bâtir dans la prière. Que le Seigneur nous fortifie. Donc en tant que responsable de famille, peu importe l'épreuve, tu es un leader. Tu dois adorer comme un leader pour que ça ait de l'influence sur ta famille. Que ça ait de l'influence sur ta femme. Que ça ait de l'influence sur tes enfants. Alléluia. Les responsables de ministère sont des leaders. Nous tous, partout où nous nous trouvons, nous sommes des leaders. Et lorsque nous adorons le Seigneur en toutes circonstances, ça a une influence particulière sur ceux qui nous entourent. J'aimerais que les collègues puissent te demander, mais comment tu fais pour continuer à chanter, à adorer Christ malgré ce que tu vis? En faisant cela, c'est eux-mêmes qui vont venir vers toi pour te demander comment tu fais. Donc cette adoration de leader provoque même que les autres viennent vers toi pour te demander comment tu fais. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent adorer comme des leaders aujourd'hui? Alléluia, nous devons passer à un autre niveau d'adoration. Adorer, non seulement en esprit, en vérité. Adorer avec notre cœur, mais avoir la capacité de toucher le cœur de Dieu tout en influençant l'entourage dans lequel nous sommes. Alléluia. Comme j'ai parlé ce matin, les chantres de l'Éternel sont des leaders. Ils doivent faire l'adoration des leaders. Parce qu'un chantre, ça ne se résume pas à adorer Dieu tout simplement. Ce que je vais dire peut être cru, mais si tu veux adorer le Seigneur, tout simplement, reste assis dans la salle. Adore Dieu, le Seigneur agrée ça. Il agrée ça, il aime ça. Mais lorsque tu te tiens ici pour adorer, non seulement la tâche est difficile, non seulement tu dois adorer avec un bon cœur, non seulement tu dois faire partie des adorateurs que le Père recherche, non seulement tu dois toucher le cœur de Dieu, mais en plus de ça, tu dois amener le peuple de Dieu qui est en face de toi à adorer avec toi, en cœur. C'est une tâche difficile. Non seulement pour les chantres, vous savez, les dirigeants de groupe. Parfois, tu joues avec des enfants, des plus jeunes qui ne sont pas saints. Tu sais qu'ils ne sont pas saints. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. On était têtus. Mais en tant que responsable de ce ministère, tu dois te consacrer pour eux. Tu dois faire doublement d'efforts pour combler le vide qu'ils font. Pourquoi? Par amour pour eux. Tu demandes au Seigneur, pardonne-les. Et tu continues à parler avec eux. Et l'adoration que tu fais influence la vie des personnes qui travaillent avec toi. Donc être un chantre, il faut avoir beaucoup d'amour, même pour ceux avec qui tu travailles. Je me souviens une fois, papa avait dit, je ne vais pas dire les noms, mais peut-être que j'étais dedans. Il a dit, je sais comment tel et tel se comporte, je sais, je suis au courant. Mais je les laisse quand même chanter ici, parce que je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je fais ça. Parce que je sais que si je les empêche, ils vont se perdre. Et je sais qu'en disant ça, tous les soirs, ils pliaient ses genoux pour prier pour ces gens-là, pour qu'ils arrêtent leur vie. Adorer comme un leader, ça demande parfois d'aller plus loin que tout simplement adorer Dieu. Parce que tu adores Dieu pour toi-même, mais tu dois adorer Dieu pour les autres aussi, pour les galvaniser. Influencer les personnes avec qui tu adores, les chantres. Oui, le ministère de chantre, c'est un ministère consacré, au même titre que le ministère de pasteur. On ne doit pas s'y aventurer à la légère. Je fais en même temps un appel. S'il y a des gens dans la salle qui souhaitent rejoindre le groupe de louanges, venez. Venez, nous avons besoin de voix d'hommes. Alléluia. On a besoin de voix d'hommes. Il y a trop de femmes. Les hommes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand les femmes entendent les voix des hommes, elles sont rassurées. Elles sont rassurées. Quand il y a la panique et tu entends la voix de l'homme, oh, et les enfants disent, papa est là, tout le monde est rassuré. Quand il y a des problèmes et que les enfants, oh, papa, il y a tel qui m'embête. Dès qu'il entend la voix de papa, il est calme. Donc nous avons parfois besoin d'entendre la voix des hommes, adorer Dieu avec la voix de ténor. Alléluia, ça va galvaniser l'église. Donc les hommes, c'est un appel. Alléluia. L'adoration. En parlant des chantres, aujourd'hui, il y a beaucoup de chantres qui se disent chantres, mais en réalité, ce sont des artistes. Ce sont que des artistes qui chantent Dieu. Un chantre ne monnaie pas ce qu'il fait. Un chantre ne dit pas, oh, paye-moi tel montant, je viens chanter. Non, ce n'est pas un chantre. Parce que ils vont te donner toutes sortes d'excuses. Oh non, mais comment je vais faire le studio? Comment je vais faire l'album? Comment je vais m'habiller? Comment je vais me déplacer? Ma question que je leur pose, comment font les pasteurs? Comment font les pasteurs? Si un pasteur vient te dire, donne-moi de l'argent pour que j'aille prêcher chez toi, voilà mon cachet. On va lui dire, tu es un faux pasteur. Mais pour les chantres, on veut faire cela. Bien aimé, il y a beaucoup d'artistes chrétiens, mais il y a peu de chantres. Un chantre, c'est celui qui fait ça de bon cœur. Et c'est le Seigneur qui pourvoit à tes besoins et tu le fais de bon cœur pour le service de l'Éternel. Si l'Église veut te bénir, il te bénisse. Mais tu n'as pas besoin de donner des conditions. Si tu as la capacité de prendre ton billet, prends-le. Si tu n'as pas la capacité, dis-leur avec humilité. Ils vont essayer de trouver une solution. Mais lorsque tu choisis l'appellation chantre, ça a un poids. Un poids qu'il faut porter. Alléluia. Bien-aimé, avant de terminer, je vais parler de la musique approfondie. À proprement dite, pardon. La musique. Parce qu'on a parlé de l'adoration, de la prière et tout, mais je vais parler de la musique. La musique avait une place très importante dans la façon dont Dieu travaillait avec les prophètes et dans le peuple d'Israël. Alléluia. Nous allons lire 2 Rois, versets 3, 14 à 15. Élisée dit à l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Élisée, le grand Élisée, a eu besoin qu'un harpiste vienne jouer pour que la présence du Seigneur descende. Quand l'harpiste jouait, la présence du Seigneur descendait. Et il y avait l'onction de prophétie qui est descendue et qui a rempli cet endroit où il se trouvait. Donc bien aimé, lorsque nous jouons de la musique, même lorsqu'il joue, lorsque nous chantons, ça amène l'onction. La musique nous met dans une atmosphère. Et quand cette musique est jouée par une personne qui a le cœur disposé, il y a l'onction de prophétie qui est accessible. Il y a l'onction de guérison qui est accessible. L'onction de paix qui est accessible. Maintenant, on comprend mieux pourquoi parfois des prédicateurs demandent de chanter tel chant. Quand ils sentent qu'on n'est pas encore rentré profondément, ils demandent de chanter encore. Pourquoi? Pour nous mettre dans une atmosphère. Pour que l'adoration que nous faisons influence la salle. Que la nature même de la salle soit changée. Et que l'onction grandisse. Tandis que le harpiste jouait, Élisée prophétisait. Il prophétisait. Plus il jouait, plus il prophétisait. Donc, bien-aimés, les musiciens ne sont pas là juste pour jouer. Ils ont leur importance dans le culte. Ce que Giovanni est en train de faire, ça a son importance. Peut-être même que je n'allais pas parler de la même façon. Peut-être qu'il n'y aurait pas la même émotion. Parce qu'il est guidé par l'esprit. Chaque personne qui chante ici et qui joue d'un instrument influence l'atmosphère de la salle de culte. Alléluia. La musique dans le combat spirituel. La louange et l'adoration jouent un rôle déterminant dans le combat spirituel. Quand Josué, autour des murs de Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tour avec les sacrificateurs qui exécutaient certainement des cantiques. Ils chantaient et louaient Dieu au son de la trompette retentissante. Le dernier jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et au son des instruments, les murs de Jéricho sont tombés. Pourquoi? Parce que leur adoration et leur louange ont influencé l'environnement dans lequel ils étaient. Les murs se sont écroulés. Donc bien aimé, même dans le combat spirituel, nous avons besoin de la musique. Nous avons besoin des chantres. Parce que quand ils chantent dans le domaine spirituel, il y a des murs qui tombent. Quand ils chantent, il y a une influence incroyable qui se passe dans le domaine spirituel à ne pas négliger. Est-ce que nous pouvons lire 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21-22? Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Pourquoi? À cause de la louange et de l'adoration. La Bible ne dit pas: il nomma des guerriers, des grands guerriers. La Bible dit: il nomma des chantres. Des chantres. Donc, bien aimé, dans le combat spirituel, les chantres, vous avez votre utilité. Lorsque vous chantez, Dieu crée l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Lorsque vous chantez, l'environnement dans lequel nous sommes change. Alléluia. Josaphat et son armée se mettent à chanter en accord. Ils en avaient assez de prier, de jeûner. Et pendant qu'ils chantaient, Dieu met la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. L'adoration crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Lorsque nous chantons avec un cœur disposé, nous créons la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20, dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes. Pourquoi est-ce qu'on doit s'entretenir par des psaumes? Parce que quand on adore Dieu, ça nous influence. Quand on adore Dieu, ça nous influence entre nous. On se sent mieux après. On se sent plus fort. Donc, bien aimé, quand il y a des difficultés, au lieu de se lamenter, c'est bien quand nous nous retrouvons. Nous nous sommes retrouvés hier. Nous nous sommes entretenus par des cantiques. Nous n'avons fait que chanter. Des cantiques spirituels. Nous n'avons fait que chanter hier. Il n'y a pas eu de prédication. Conformément à ce passage.